Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Après près de 10 heures de rencontres marathon hier, Uhuru Kenyatta a déclaré que tous les groupes armés actifs dans l'est de la RDC présents pour parler de Nairobi ont accepté de déposer les armes. Toutefois, ils ont formulé des propositions pour sortir de la crise. Situation alarmante du VIH-Sida dans la province du Sud Kivu. De nombreux de nouveaux cas enregistrés chaque mois, ainsi l'a annoncé Dr Bodina Gueuleur, médecin et agent de lutte contre le VIH-Sida. Il a fait savoir en ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Enfin, pour parler de la situation de la pandémie de VIH-Sida en RDC, nous recevons dans cette édition du journal Dr Aimé Mboyo, directeur national du programme national de lutte contre le sida. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le facilitateur de l'EAC pour le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo a reçu hier tous les groupes armés actifs dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika, présents au pourparler de Nairobi. Après près de 10 heures de rencontres marathon, Uhuru Kenyatta a déclaré que tous ont accepté de déposer les armes. Cependant, ces groupes armés ont fait des propositions pour sortir de la crise dans l'est de la RDC. Les détails avec notre envoyé spécial à Nairobi, Martial.
Les groupes armés Codeco de l'Ituri a dit être prêt à déposer les armes. Il a soumis aux facilitateurs de l'EAC et au gouvernement congolais la demande de prendre les mesures nécessaires pour demander aux groupes armés Zaïre de faire de même et de cesser d'attaquer ses positions. Les groupes armés Zaïre n'est pas pourtant représenté à Nairobi. De leur côté, les groupes armés d'Imaniema se disent également prêts à déposer les armes, mais ils souhaitent le respect des accords signés entre les communautés, les gouvernements et l'entreprise Banro sur l'exploitation minière dans cette province. Ces dits Tanganyika se disent aussi prêts à déposer les armes, mais sollicitent la sécurité de la communauté Toa. Les groupes armés du Sud Kivu ont exprimé leur volonté de mettre fin au combat. Certains ont proposé la reprise des pourparlers entre les communautés Bembe et Banyamulenge, et d'autres les désarmements de tous les groupes armés étrangers actifs dans la province. Les groupes armés du Nord Kivu, les plus représentés dans ces processus, se disent également prêts à déposer les armes, mais ils ont exprimé aux facilitateurs les besoins de désarmer les FDLR, les ADF et les M23. Ils ont aussi sollicité leur intégration au sein des services de sécurité, la libération de leurs prisonniers et l'amnistie de leurs membres recherchés par la justice. Nairobi, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant ces temps sur terrain au Nord Kivu, des combats ont repris ce jeudi dans la matinée entre les rebelles du M23 et les FARDC sur l'axe Bambo-Kibirizi. Selon les sources sur place, ces affrontements auxquels se mêlent les groupes armés provoquent d'autres mouvements de population civile dans cette partie de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Pendant ces temps, plusieurs sources affirment que le bilan des massacres des civils attribués aux rebelles du M23 est revu à la hausse dans le village Kishiché, groupement de Bambo. Les détails avec Blaise Chinda.
C'est depuis 9h locales ce jeudi que des tirs d'armes lourdes et légères se font entendre dans les villages de Kirima, Matete et Lucheberé. C'est sur l'axe Bambo-Kibirizi. Selon les sources administratives à Kibirizi, ces affrontements auxquels se mêlent les groupes armés venus des territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale provoquent une panique dans cette agglomération qui avait déjà accueilli plusieurs déplacés en provenance des Bambo et Tongo. Le fonctionnaire délégué du gouverneur sur place à Kibirizi craint que les rebelles ne coupent la route Rwindi, Kibirizi, Nyanzale. Pendant ces temps, les sources administratives du groupement des Bambo affirment que les bilans des massacres de population attribués aux rebelles du M23 dans les villages de Kishiché est revu à la hausse. Elles parlent de plus de 100 civils qui auraient été tués. Cependant, d'autres sources concordantes parlent des 33 civils tués dans ces villages. Rappelons que les M23 qui avaient perdu le contrôle de Kishiché à l'issue des attaques des groupes armés locaux la semaine dernière l'ont reconquis hier mercredi avant de lancer une opération de ratissage où aucun civil ou milicien local retrouvé sur place n'a été épargné. Ces combats dans la chefferie de Bwito créent la terreur dans la région, poussant des milliers d'habitants à fuir entre autres vers Kichanga et Masisi.
Et puis, l'usage de la force contre tout groupe armé ou groupe terroriste réfractaire au processus de paix en cours de Luanda et de Nairobi. Cette option a été levée hier mercredi par les experts de défense des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Durant 3 jours de travaux, cette rencontre a regroupé les experts de l'organisation sous-régionale avec le commandement des forces de la MONUSCO du lundi à ce mercredi à Goma. Bernard Nyangi nous fait la synthèse des travaux.
Organisés sous l'égide des chefs d'état-major généraux des pays membres de l'EAC, ces travaux ont réuni le commandement des forces de la MONUSCO, l'état-major général des FARDC, le commandement de la force régionale de l'EAC et le mécanisme conjoint de vérification de l'EAC et de la CIRGL. Dans un extrait du communiqué final qu'il a rendu public, le gouverneur militaire du Nord Kivu se réjouit de l'élaboration d'un cadre de collaboration et de coordination des offensives conjointes FARDC, forces de l'EAC et la MONUSCO contre les groupes réfractaires au processus de Nairobi et de Luanda, lieutenant-général Constant Dima.
Le groupe de travail aboutit à l'élaboration d'un arrangement technique, définit le cadre de collaboration et de coordination entre la force régionale et la MONUSCO. En attendant le nouveau mandat de cette dernière, l'arrangement technique a mentionné l'option de l'usage de la force contre tout groupe armé ou terroriste réfractaire à la décision des chefs d'État de la région.
Ce document de cadre de collaboration sera soumis à la décision des chefs d'État membres de l'EAC. Mais en attendant, les experts ont décidé que la force régionale se déploie dès cette semaine déjà sur le front contre la rébellion du M23 à Kibumba aux côtés des FARDC.
Et puis le processus de Nairobi 3 doit aboutir à un engagement ferme et sincère des groupes armés de l'Ituri pour la cessation définitive des hostilités dans cette province. C'est le coordonnateur de la société civile de l'Ituri qui l'a dit ce jeudi au cours d'un point de presse à Bunia. Dieudonné Lossa précise que les groupes armés ont intensifié les violences contre la population dans plusieurs localités pendant les 2 premières assises de Nairobi. Il se félicite cette fois-ci de la participation de la majorité des milices actives de l'Ituri, dont la CODECO, qui n'avait pas assisté aux précédentes rencontres, ce qui augure de l'espoir pour une paix durable dans cette province qui compte plus d'1 million de déplacés qui veulent regagner leur village d'origine. Il a été joint par Isaac Remoyope.
Nos regards sont tournés vers les activités de Nairobi, duquel nous voulons réellement la paix. Alors une paix réelle, un engagement sincère. Ils ne sont pas allés à promenade, ils sont allés justement pour partager leurs problèmes, mais aussi ils doivent prendre un engagement qu'ils vont respecter. On a déjà des expériences malheureuses dans les temps passés, on ne veut pas que cela continue. Ça veut dire qu'après Nairobi 1 et Nairobi 2, les massacres ont continué, les pillages des biens n'ont pas cessé. Donc ça n'a pas arrêté à que cette pratique continue. Et nous voulons que cette fois-ci, qu'on ne puisse plus attendre des vols de bétail, pillages, tueries, on ne veut plus attendre cela. Nous voulons qu'après Nairobi 3, qu'on ait vraiment la calmie totale sur l'ensemble des provinces, parce qu'on ne peut pas imaginer que dans un état de droit, qu'il y ait d'autres personnes qui détiennent les armes, même sous l'état de siège.
Signalons que parmi les groupes armés actifs en Ituri, le groupe d'autodéfense Zaïre et les groupuscules de Mai Mai dans les territoires de Mambasa et d'Irumu ne sont pas représentés à Nairobi 3. Entre-temps, sur terrain au sud Kivu, marche pacifique de soutien FARDC. La manifestation a eu lieu ce jeudi matin dans les rues de Bukavu. Une initiative de l'archevêque de Bukavu pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda. La plupart des écoles catholiques du sud Kivu n'ont pas fonctionné ce jeudi. Monseigneur François-Xavier Maroy a personnellement déposé le mémorandum au gouvernorat de province et à la MONUSCO sud Kivu. Le point avec Emmanuel Elamejou Akabedi.
C'est une forte mobilisation avec en tête l'archevêque de Bukavu qui a marché ce jeudi. Des fidèles catholiques et d'autres encore ont marché pour manifester leur soutien au FARDC qui se bat au front en ce moment. Pour Monseigneur François-Xavier Maroy, ceux qui marchent ne sont pas des fous ni des désœuvrés, mais plutôt des personnes qui aiment leur patrie et qui veulent signifier au monde entier que la RDC n'est pas à vendre ni un bien abandonné. Nous voulons marquer notre solidarité avec tous nos frères qui souffrent et qui sont privés de leur bien, nous voulons témoigner à nos FARDC de notre soutien et de notre prière. Fin de citation. Les manifestants disent non à la balkanisation de notre pays et non au complot contre la RDC. Seuls les élèves des humanités étaient admis à cette manifestation. Les autres enfants du primaire jusqu'en 8e année étaient exclus par l'organisateur. après le gouvernorat de province comme point de chute, Monseigneur Xavier Maroy est arrivé en personne au bureau de la MONUSCO où il a été reçu par la chef de bureau Cécilia Piazza, cela après l'étape de l'Institut français de Bukavu. Emmanuel Elami Jouakabedi, Bukavu Radio Kapi.
Journée mondiale de lutte contre le sida, ce 1er décembre. La situation de la pandémie de VIH-Sida est très inquiétante dans la province du Sud Kivu. Des nouveaux cas de contamination au virus du sida sont enregistrés chaque mois dans l'ensemble des zones de santé de la province. Une situation qui est due à un relâchement observé de la part des principaux partenaires engagés dans la lutte depuis l'avènement de l'autre pandémie à COVID-19. Docteur Bodina Gueuler, médecin et agent de lutte contre le VIH-Sida, en appelle à l'engagement de tous, surtout dans les méthodes préventives, mais aussi à bannir la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Docteur Bodina Gueuler, au micro de Emmanuel Elamejou Akabedi.
La lutte est en train de chanceler vu que le VIH est en train de prendre de l'ampleur et de l'ascendant par rapport aux acquis qui étaient déjà observés pendant les années passées. Dans la communauté, il y a hausse de cas parce que nous sommes en train de remarquer de nouvelles infections au sein de population. C'est autour des 18 à 25 ans qu'il y a une grande flambée de nouvelles infections. Nous rallions aux objectifs mondiaux de l'ONU SIDA qui parle des objectifs 95, c'est-à-dire 95% de personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur état sérologique. 95% de personnes avec statut sérologique doivent avoir accès aux ARV et 95% de personnes vivant avec le VIH doivent avoir leur charge virale supprimée ou indétectable. La population doit adopter un comportement à moindre risque, c'est-à-dire l'abstinence sexuelle pour les célibataires, la bonne fidélité pour le marié et l'utilisation systématique du préservatif.
Alors, parmi les moyens de prévention contre cette maladie, on compte le préservatif. Qu'en est-il de l'utilisation de ces moyens de protection chez les jeunes à Kinshasa? Élément de réponse dans ce reportage de Pauline Massirika.
Les jeunes rencontrés sont unanimes. Le préservatif est important dans la prévention du VIH-Sida et des maladies sexuellement transmissibles. Mis de côté ceux qui disent observer l'abstinence, les jeunes sont divisés quant à son utilisation. Pour certains, le préservatif gâche le plaisir. C'est ainsi qu'ils ont fini par abandonner son usage. D'autres affirment qu'il suffit d'en choisir un de bonne qualité. Nous avons aussi une autre catégorie qui n'est pas à en faire usage parce que marié ou fidèle à leur conjoint et vice-versa.
Si tu l'utilises, tu peux continuer. Nous sommes nombreux qui ne l'utilisent. N'utilisons pas, c'est comme moi.
Les préservatifs importés sont de bonne qualité. La majeure partie des préservatifs que nous avons ici se trouvent pendant l'action. Même dans la vente, il y a une différence de prix. C'est là, les sachets coûtent au moins 10 000 francs. Et ce que nous achetons ici, c'est 500 francs.
Pour Julius Bongongo, analyste de programme à l'ONG DKT, actif dans la santé productive, le préservatif bien utilisé protège et permet d'éviter des grossesses non désirées. Mais ce sont plus les hommes qui y ont recours.
Aimer, c'est aussi savoir se protéger. Si j'aime mon partenaire et que je sais que je suis dans une période où je peux avoir un bébé et qu'on n'est pas encore prêt pour avoir un bébé, on utilise un préservatif. Si j'ai des relations sexuelles et que je ne suis pas sûre de mon partenaire, on se protège.
Cette année, le slogan est égalité maintenant.
Autre nouvelle, plusieurs quartiers de la capitale congolaise, Kinshasa, restent méconnus. C'est le cas du quartier du 17 mai dans la commune d'Nkisesu. Ici, pas d'avenues asphaltées, l'eau de la régie des eaux et même le courant électrique sont quasi inexistants. Les Kinois vivant dans ce coin de la capitale vivent dans l'insécurité et sont menacés par les érosions. On trouve toutefois dans ce quartier du 17 mai un marché, quatre écoles, une station-service et trois églises. Plusieurs habitants sortent vers les autres communes pour leurs différentes activités. Innocent Fadili revient du quartier du 17 mai et voici son reportage.
Situé entre quatre quartiers, Ngomba, Mujinga, Régie des eaux et Mission, le quartier du 17 mai a 2,6 km² et compte 18 762 habitants. Il fait face à de nombreuses difficultés. Sur 40 de ces avenues, pas même une n'est construite et 5 d'entre elles sont menacées par des érosions. Par manque d'eau potable, les habitants se contentent d'utiliser celle des forages et des pluies. Nous y trouvons 4 écoles, dont l'école primaire et secondaire Sebeko. Témoignage d'un des habitants de ces coins.
Nous vivons aussi dans le noir, les Koulou, non, soit les bandits là. profite pendant que donc 19h, 20h, il y a vraiment l'insécurité. Puis chaque jour qu'il y a la pluie, l'érosion, ça se transforme encore en catastrophe. Il y a des gens qui perdent leur parcelle, il y a des gens donc qui pleurent à tout moment, surtout concernant des érosions.
D'après le chef adjoint du quartier, plusieurs parents n'ont pas assez de revenus, d'où les jeunes se mécomportent. Monsieur François Ndingambote propose
qu'il y ait là les enclavements de notre commune, qu'on arrange les problèmes de l'ASNED, qu'on arrange les problèmes de la régie des eaux. Parce que quand toutes ces activités sont en marche, vous voyez que quand même il y a un souffle, je peux dire, de la part de la population.
Le quartier du 17 mai est l'un des 17 quartiers de la commune de Kisenso.
Actualité internationale.
L'ONU a lancé ce jeudi 1er décembre un appel de fonds record de 51,5 milliards de dollars américains pour l'aide humanitaire en 2023 afin d'assister 230 millions de personnes dans le monde. L'année prochaine sera donc le plus vaste programme humanitaire jamais lancé au niveau mondial, a déclaré le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffith, au journaliste rapporte l'AFP.
L'invité.
Nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. En RDC, la grande cérémonie commémorative a lieu à Kolwezi, sous le thème « Poussons pour l'égalité et l'égalité maintenant ». Avec notre invité, le docteur Emembo, directeur national du programme national de lutte contre le sida, nous faisons le point sur cette maladie en RDC. C'est dans cet entretien avec Innocent Fadili depuis Kolwezi. Suivi.
Docteur Emembo, bonjour.
Bonjour mon frère.
Quel est l'état actuel du VIH-Sida en RDC?
L'état actuel de la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays est bon. Et ce qu'on peut relever, c'est que nous comptons plus de 540 000 personnes qui vivent avec le VIH. Et face à cette situation, le gouvernement, avec l'appui de partenaires nationaux et internationaux, je citais l'ONU-Sida, le peuple phare, le Fonds mondial, la société civile, les secteurs privés, à travers le programme national de lutte contre le sida PNLS et les programmes nationaux multisectoriels de lutte contre le sida, amène une riposte à tous les niveaux, une riposte pour, n'est-ce pas, mettre fin au sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030. Et pour cela, je voudrais juste appeler le fait que tous les efforts conjugués ont permis aujourd'hui de faire accéder, de mettre sous traitement antirétroviral plus de 440 000 personnes vivant avec le VIH dans notre pays.
Et ici à Kinshasa, avez-vous des statistiques?
Au niveau de Kinshasa, il faut dire que le 30% des personnes qui sont mises sous traitement vivent, n'est-ce pas, dans la ville de Kinshasa.
Et actuellement, docteur, on parle de moins en moins du VIH-Sida. On parle beaucoup plus du Covid, du choléra et autres maladies. Qu'est-ce qui explique cela?
Mais disons que notre système de santé, face à beaucoup de problèmes, à beaucoup de pandémies, dont la maladie à virus Ebola, le choléra, les monkeypox, et on se souvient, depuis 2020, la pandémie à Covid-19 a secoué et continue malheureusement de secouer notre système de santé. Nous parlons encore de la sixième vague, et cela a fait que la sensibilisation puisse, n'est-ce pas, faiblir vis-à-vis du VIH, vis-à-vis du sida. Et donc, c'est quelque chose que nous devons très rapidement renforcer.
Docteur, actuellement, qu'est-ce qui est en train d'être fait en termes des mesures préventives, des prises en charge dans ces différentes formes, prises en charge médicales, psychologiques?
Mais disons que nous disposons d'une gamme variée d'intervention du VIH, donc de la distribution de préservatifs masculins et féminins, de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et post-exposition. Donc il y a une gamme tout à fait variée. Et de l'autre côté, pour la prise en charge, d'abord de tests de dépistage qui existent, nous disposons, n'est-ce pas, d'une gamme variée de médicaments, donc de antirétroviraux, qui sont de plus en plus efficaces, qui permettent donc de sauver des vies et de réduire très sensiblement la mortalité due à la pandémie du VIH.
Docteur, que peut-on comprendre par le thème de cette année?
Cette année 2022 est axée sur les inégalités. Bon, nous disons, poussons pour l'égalité et égalité maintenant. L'objectif ultime est de pouvoir mettre fin au sida d'ici 2030 en tant que menace de santé publique. Mais il est enregistré en retard. Et l'une des principales causes, ce sont les inégalités de genre, les inégalités par rapport aux droits humains, et c'est que nous devons lutter contre la discrimination, la stigmatisation à l'égard de personnes vivant avec le VIH, à l'égard de groupes de population à haut risque, pas de manque de financement pour que nous puissions renforcer et la prévention et la prise en charge d'en venir à bout avec le VIH.
Docteur Memboyo, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Élisée Kikota et la supervision de Ben Kabamba. Merci également à vous de nous avoir suivis.